les eaux fleurissent. Ris, entre la vie est un délice. Ris, bambelle d'enfant, regard complice.
Les éclats de lyre. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 mai 2024 au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
Toujours un grain de sel dans nos vies.
Les éclats de lyre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Éclats de Lyre. Et aujourd'hui, je suis en compagnie téléphonique de Inbar Eller Alghazi. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends bien.
Très bien. Alors, j'ai une première question qui est un peu hors cadre de l'interview. Je voudrais savoir si je prononçais bien votre nom. Inbar Eller Alghazi ?
Oui, c'est bien ça.
Bon, formidable. Alors, pour commencer cette émission et cette interview, je rappelle que vous êtes autrice et illustratrice pour la jeunesse. Vous êtes invitée au festival Les Éclats de Lyre qui a lieu au mois de mai au Vigan. Et on vous a demandé, pour les besoins de notre communication, de nous citer, entre autres choses, un livre jeunesse super jalousé.
Oui, donc pour cette question-là, moi j'ai choisi un livre que j'aime énormément, qui s'appelle Rami Ménage chez Madame K, d'un auteur allemand qui s'appelle Wolfgang Ambruch.
Et qu'on connaît très bien pour un autre album bien plus célèbre, De la petite taupe qui voulait savoir qui l'avait fait sur la tête.
Voilà, c'est un auteur merveilleux et qui a beaucoup marqué mon enfance, particulièrement ce livre, qui raconte un petit oiseau noir qui arrive chez un couple et voilà, c'est l'interaction entre les trois et c'est très poétique et très très beau.
C'est un livre que vous avez découvert à l'âge adulte ou quand vous étiez plus jeune ?
Non, je l'ai découvert petite. J'ai passé une partie de mon enfance à Berlin, donc en Allemagne. Et c'est là où je l'ai découvert et j'ai des souvenirs très très forts, vraiment de 5-6 ans de ce livre, de ces images et de personnages typiques de Wolfgang Ambruch qui sont, je trouve, très très expressives avec une beauté particulière.
Vous dessiniez déjà à l'époque beaucoup ?
Oui, j'ai dessiné beaucoup. J'ai pas pensé le faire en métier, mais je passais énormément de temps à dessiner. Ouais.
Et pour vous, c'est du coup le dessin que vous n'avez jamais quitté. Il n'y a pas eu un âge, comme on appelle ça, un âge de raison, où on lâche un peu ses stylos, ses crayons pour les reprendre plus tard. Vous êtes tout le temps resté dans le dessin ?
Oui. J'ai toujours dessiné, ou en tout cas eu ce besoin d'exprimer par plusieurs voies.
Et est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « je suis illustratrice » ?
Oui, il y avait clairement un moment comme ça, il y a 6-7 ans, peut-être un peu plus. Mais le mélange de travail auprès des enfants, travail en librairie, dessin, il y avait plusieurs chemins qui m'ont amené vers la création de livres jeunesse. Et le moment où j'ai pensé à ça, c'est devenu très vite une évidence.
D'accord. C'était avant de publier votre premier livre quand même.
Oui, c'était bien avant ça. Ouais.
Alors vous aviez déjà peut-être fait vos études artistiques après être partie de... Alors je ne connais pas votre chronologie, mais vous êtes arrivée à Toulouse. Vous avez fait une école d'art, non ?
Oui, je suis arrivée à Toulouse en 2018 et j'ai fait des études à l'école de Condé à Toulouse. C'est une école de design de base qui a proposé un programme d'illustration et... Moi, je sautais sur l'occasion de faire des études et c'était plongé pour moi dans un état de dessin toute la journée, toutes les nuits et c'était merveilleux.
Qu'est-ce que vous avez appris dans cette école ?
Qu'est-ce que j'ai appris ? C'est une bonne question. Je pense que c'était surtout le temps. C'est un privilège assez grand d'avoir... de temps dans laquelle on peut en permanence travailler notre passion. Donc je pense que c'est ça le plus grand cadeau des études. Et puis les rencontres humaines qui se sont passées là-bas, auprès de certaines profs, d'autres étudiants. Je pense que...
Ça vous a lancé dans la voie de l'illustration jeunesse ensuite ?
Oui, non, ça, et puis aussi par des surprises, notamment aux rencontres avec quelqu'un qui est maintenant une chère amie, qui m'a enseigné la typographie et calligraphie. Mmh. Une calligraphe qui s'appelle Kitty Sabatier, et drôlement par cet amour très fort de lettres, de dessin de lettres, ça a beaucoup influencé mon trait aussi dans l'illustration.
D'accord. Alors, on est toujours dans l'illustration jeunesse. Dans le portrait chinois, encore, on vous a demandé de nous citer un personnage favori. Je crois que vous en citez deux, mais j'ai retenu Éclat dans le très bel album Éclat et Lucky de Marine Schneider.
Oui, oui, c'est un album absolument merveilleux qui est sorti, je pense, il y a 2 ans.
Il n'y a pas très longtemps, oui, chez Albin Michel.
Et ça raconte l'histoire de deux personnages qui sont difficiles à décrire. Qui sont absolument merveilleusement dessinés. Et voilà, c'était vraiment un grand coup de cœur, ce livre.
Alors, vous citez le personnage de Éclat, qui s'écrit H-E-K-L-A, mais en fait, c'est Éclat comme un coup d'éclat, un petit peu.
Oui, 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 il est salamant, ouais.
Alors, vous avez publié un album qui s'appelle « Le livre de Gilles et Flop avec les fourmis rouges », c'est une maison d'édition, en 2022. Est-ce que c'était le premier livre que vous avez réalisé ?
Oui, c'est le premier que j'ai écrit et illustré. Avant ça, j'ai illustré un projet pendant mes études.
Ah, c'est pas votre projet d'études alors ?
Non, non, c'était pas un projet d'études, mais pendant les études, je profitais du confinement pour aussi travailler et je illustrais un livre qui est sorti à l'étranger. Mais le livre de Gilles et Flop, c'est vraiment mon premier livre, on peut dire. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est né ce projet dans votre esprit ?
Alors, ça a commencé par un dessin d'un paysage avec plein de minuscules créatures. Mmh. Et Valérie Cusseguet, l'éditrice de Fourmis Rouges, a vu ce dessin et m'a demandé pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire avec cette ambiance-là, ce personnage-là ? Et j'ai pris donc deux de ces petites créatures qu'il avait dans l'image et tout simplement le laisser parler dans ma tête. Et tout de suite, il avait deux voix très marquées et ça commençait comme ça et ça on les prit.
Alors je suppose que ces deux personnages, ce sont Gilles, qui est un espèce de mille pattes plutôt sérieux, et Flop, bon, c'est un insecte qu'on n'identifie pas vraiment, mais qui est... un peu plus aérien dans son esprit.
Oui, donc c'était Gilles et Flop, qui à l'époque ont eu d'autres noms, parce que c'était écrit de manière un peu étrange, en français et en anglais en même temps. Donc chaque paragraphe était écrite en anglais et en français. Et donc il avait le voix à la fois français et puis très british, très anglais. Et ça leur a donné aussi beaucoup de leur caractère.
D'accord, c'est ok, parce que c'est vrai qu'ils ont des caractères très différents. Et est-ce que je peux vous demander pourquoi est-ce que ces personnages qui sont censés être amis se vouvoient ?
Oui, alors une raison est plus simple, et c'est que en tant qu'étrangère, j'écris de manière un peu chaotique. Et quand on travaillait le texte, mon maîtresse et moi, voilà, il arrivait souvent qu'elle voyait des phrases qui n'ont pas de sens, des mots inventés, des choses qui étaient un peu étranges, mais qui nous faisaient beaucoup rire. Et il avait ce vouvoiement, et on se demandait est-ce qu'on le garde ou pas. Et finalement, on se disait que ça donne quelque chose un peu de vieux livres, de livres jeunesse du début du XXe siècle, de Kenneth Graham, qui influence un peu de ce côté anglaise justement de ces deux personnages et donc on a décidé de le garder.
Ouais, il y a ce côté un peu désuet, un peu charmant qui m'a bien plu. Et justement, je voulais vous demander, comme le français n'est pas votre langue maternelle, comment vous parvenez à écrire des livres ? Est-ce que vous êtes suffisamment approprié la langue pour pouvoir écrire des histoires avec ? Ou alors ça demande un travail supplémentaire d'écrire en français ?
Alors drôlement, c'est plus facile pour moi d'écrire en français que dans ma langue maternelle. Mais je pense que parfois on a des sortes de langues maternelles adoptives, donc des langues avec laquelle on a un lien très fort, et c'est le cas avec le français. Et donc les mots, c'est vrai que parfois ça demande plus de travail. Donc en effet, chaque mot est choisi et pensé, il n'est pas évident. Ce qui, je pense, finalement est présent aussi dans l'écriture. Mais après aussi, il y a une légèreté parce qu'on n'a pas un poids culturel derrière. On a une légèreté de gens qui arrivent, qui peuvent l'utiliser un peu de manière libre, maladroite. Voilà.
D'accord. Alors ce livre, qui s'appelle « Le livre de Gilles et Flop », c'est une promenade dans le monde des insectes, dans vraiment le tout petit. Et il y a... Ça se passe dans la forêt, au bord de la rivière. On est vraiment en pleine nature. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à observer la nature pour faire ces dessins ?
Pas assez. J'aimerais passer plus de temps à la nature. J'habite en ville et j'ai toujours habité en ville, mais je suis très, très attirée par la nature à l'extérieur. Et de qui je suis vraiment profondément heureuse. Et en effet, je peux passer mon temps à regarder... toutes les petits objets, les petites choses, les petits insectes. Mais cette histoire venait aussi de regarder le petit, les enfants en fait, et leur relation avec le petit. Je travaillais dans une école primaire et voir la manière dont même dans un cours d'école avec le béton et rien, les enfants trouvent les minuscules feuilles, les objets, les petits insectes et leur donnent une attention... que je trouvais très belle.
Ah oui, mais là, on est en train d'empiéter sur un prochain livre que vous avez écrit, Moumoute et la boîte au trésor. Alors, avant d'en arriver là, je voulais vous demander, on remarque en première page de ce livre que vous dédicacez ce livre à une libraire qu'on connaît bien avec les éclats de lire. C'est plutôt anodin. Est-ce que vous voulez nous expliquer la raison de cette dédicace ?
Oui, donc c'est une libraire qui est extraordinaire, qui est une personne que j'aime énormément et qui, je pense, est une libraire dans le sens la plus riche de termes, parce que c'est le lien pas que entre le livre et les gens, mais aussi entre les gens qui arrivent en librairie et a un regard très très sensible. Mmh. Et c'est elle qui m'a un peu pris par le main en disant « je vais t'aider ». Dans ton chemin, et elle m'a fait rencontrer mon éditrice, donc Valérie Pussani. Et c'est par cette manière très belle dont elle a tissé ce lien que ce livre est né.
Superbe. Mais en parlant de lien, le point de départ de cette histoire, c'est un beau livre, un très beau livre que Gilles et Flop souhaitent offrir à leur ami. Donc s'ensuit tout un périple. Hein. Pour aller offrir ce livre. Et dans Moumoute, c'est la boîte au trésor dont on commençait un petit peu à brosser le sujet tout à l'heure. Il y a également ce don du crayon et de l'écriture. Donc là, d'un côté un livre, de l'autre le crayon. C'est pour vous des cadeaux très importants ou les plus beaux cadeaux ?
Alors je pense que quand même les plus beaux cadeaux restent humains. Mais la lecture, finalement, elle est ça. Je veux dire, la chose la plus importante, je pense, dans la lecture, c'est ce moment de partage entre des parents, des proches et un enfant, ou entre enfants, mais souvent entre un adulte et un enfant. Et je pense qu'au-delà de le début de l'écriture, de lire, c'est un moment précieux d'intimité. Et c'est peut-être ça que je voulais un peu dire dans de différentes manières dans les deux livres. Mais c'est vrai que dans Moumoute, finalement, ce qu'il reçoit, c'est le lien avec les tout-petits, donc il reçoit une sorte d'amitié. Et dans Gilles et Flop, c'est leur temps passé ensemble, c'est le voyage qu'ils ont fait, qui devient plus important que l'objet.
Oui, et qui se retrouve dans l'objet à la fin, et qui est amené à perdurer. Donc c'était pour le livre de Gilles et Flop, de Inbar et Ler Al-Ghazi, que l'on peut trouver chez les Fourmis Rouges. On va écouter l'assa des Sela avant de reprendre cette interview. On écoutait Is Anything Wrong de la chanteuse Lassa sur les ondes de Radio Escapade dans l'émission Des éclats de lyre. Inbar et Ler Al-Ghazi, vous avez écrit et illustré Moumout et la boîte au trésor dans la collection Moucheron à l'école des loisirs cette année, en 2023. Donc Moumout, c'est un petit ourson qui part en vacances chez sa grand-mère qui a une maison dans les bois. Et elle lui confie une boîte, je crois une boîte en métal, à sucre peut-être, en lui proposant de la remplir de trésors qu'il collecterait dans les bois. Mais seulement Moumout, il a du mal un peu à comprendre ce qu'est un trésor. Donc il essaie de capturer un rayon de soleil, mais il ne reste pas dans la boîte. Pourtant, il y avait de l'idée, je trouve. Et finalement, il désespère, mais il rencontre le peuple des tout-petits, qui vont lui ouvrir les yeux un peu sur tous les beaux mystères, tous les beaux trésors qu'on peut trouver dans la forêt. Si j'ai bien résumé.
Oui, oui, très bien.
Alors, qui sont ces tout-petits ?
Alors, les tout-petits, ce sont des sortes d'insectes. On peut dire ça, mais pas exactement. C'est des minuscules créatures qui nous tombent sur le chemin de ce petit. Et en effet, ils ressemblent de petites choses de la forêt, mais même de choses assez simples, des brins de petites...
Ils ressemblent un petit peu à Gilet Flop, en fait. On est un peu dans le même monde.
Oui, c'est même petite créature qui vient assez instinctivement en dessinant. Voilà, c'est un peu aussi pour moi les enfants, on peut dire, dans une certaine manière.
Ouais.
C'est la fait qu'on a une taille plus petite qui permet aussi parfois de voir plus de choses ou de découvrir autre chose par cette pendue.
Alors justement, ce sont quoi ces trésors ?
Alors le trésor dans le livre, il rassemble de petites choses qu'il trouve dans le bois, mais je pense que ce qu'il met finalement dans la boîte, ça a peu d'importance en soi comme objet. C'est plutôt quelque chose qu'il signe pour Mammouth, et c'est ça les trésors. Je pense que c'est tout ce qu'on choisit accorder une certaine importance ou porter notre regard là-dessus. Et puis c'est la geste en soi, je pense, qui est important pour Mammouth. Finalement, c'est des petites choses qui l'ont entouré, mais ce qui, je pense, l'émerveille, c'est la fête qu'ils ont pris ce temps, qu'ils ont cherché, qu'ils ont trouvé ces petites choses.
Oui, et pour moi, c'est aussi la faculté de s'émerveiller de choses assez simples.
Oui.
De trouver la beauté en toute chose.
Et donc... Oui, c'est le plus.
Mammouth, cet ourson, va devenir ami avec ses tout-petits. C'est encore une histoire d'amitié, je trouve.
Oui, encore une fois, il y a cette amitié cette fois-ci. Et ben, il rencontre plutôt la groupe de ce tout-petit. Mais oui, je pense que c'est... finalement, quelque chose qui occupe pas mal le monde des enfants. Et voilà.
Et là, elle se base vraiment sur un échange, parce que Mammouth, il était vraiment désemparé de ne pas trouver de trésor, donc les tout-petits lui montrent, lui apprennent. Et pour les remercier, Mammouth offre un crayon.
Oui.
Et là...
Donc, il leur offre la possibilité d'écrire. Et je pense que c'est à la fois en hommage, un peu aussi un tout petit clin d'œil à la fête d'être immigrant et d'avoir, dans une certaine manière, reçu à nouveau cette chose qu'on reçoit tous quand on est enfant. Mais j'ai grandi dans un alphabet différent et une langue complètement différente. Et la fête de réapprendre une langue et vraiment vivre dans un autre alphabet, ça ramène pour moi beaucoup à cet âge de 5-6 ans, donc l'âge de lecture de Mammouth. Il y a plusieurs ressemblances entre les deux. Je pense que il y a cette chose assez drôle où on te félicite pour avoir réussi d'écrire une phrase, une chose qui semble banale. On est finalement assez bête, qu'on arrive et on ne sait rien. Et c'est un moment assez merveilleux, je pense, de rien savoir et d'être que des yeux et des oreilles qui essayent de tout capter. Donc je pense que j'essaie un peu aussi toucher à ça de manière douce dans l'histoire. Et puis voilà, ils écrivent en petites lettres.
Une invitation à se revoir en plus. Donc c'est vraiment un gage d'amitié qui perdure. Il y a une suite des aventures de Mammouth qui est prévue, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou c'est trop tôt ?
Oui, il y aura une suite qui sera publiée en printemps 2024.
Super.
Donc ça s'appellera Mammouth et la journée avec Mouchka.
D'accord, donc ils sont. Mouchka, c'est l'un des tout petits, hein, ils sont amenés à se revoir et oui. on en saura plus au printemps, exact, donc.
La journée ensemble, voilà. Mm-hmm. Oui, c'est.
Alors là, on a un petit peu parlé du texte, on n'a pas vraiment parlé des illustrations, et c'est assez compliqué à la radio de décrire le style d'un ou d'une illustratrice. Déjà, quels sont vos outils pour illustrer ?
Oula, c'est un mélange un peu de tout.
Ouais.
Donc je travaille au début avec de l'aquarelle et de gouache, et ensuite des crayons de couleur, des pastels, parfois de papier découpé. Dans mon mood, il y a plusieurs éléments qui sont découpés et collés. Et voilà, je pense que la curiosité m'amène toujours à mélanger plein d'outils différents.
Ouais. Vous faites beaucoup de recherches ou de croquis avant de vous lancer ?
Oui et non. Ça veut dire à la fois.
Du coup, il n'y a pas de travail sur l'ordinateur où on peut tout reprendre.
Oui, tout est dessiné à la main.
Voilà.
Il y a beaucoup de travail dans des carnets de croquis, on fait des recherches pour Gilles et Flop, car c'est vraiment l'univers des insectes un peu parallèle à celle des humains. Je me suis amusée à prendre des scènes quotidiennes humains et les mettre dans le livre. Donc il y a des livreurs, des parents avec leurs enfants, des gens qui sont chez le boulanger, mais en version insectes de tout petit. Donc c'est là. C'est aussi un travail d'observation et transformation en insectes, on peut dire, situation. Mais après, pour le dessin final de Gilles et Flop, j'ai eu la chance d'avoir cette liberté qui n'est pas évidente d'attaquer directement le dessin. Donc il n'y a pas de crayonné, passage à la table lumineuse, c'est dessiné direct. Donc il y a toujours un élément de peur quand j'arrive aux feuilles, parce que je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer, et ça passe par pas mal de moments d'angoisse mais qui, je pense, sont nécessaires pour certains projets, pas pour tous, mais je pense qu'on peut sentir cette hésitation ou cette manière de chercher dans le dessin.
D'accord. On va revenir au portrait chinois avant de faire une pause musicale de nouveau avec « Je parle comme une rivière ». C'est un livre chez Didier Jeunesse que vous citez comme votre coup de cœur.
Oui, c'est un livre que je trouve absolument sublime. C'est illustré par Sidney Smith, qui est vraiment un de mes illustrateurs fétiches. Je suis tout ce livre quand il sort. Et ça parle d'un gamin qui bégaye. Et c'est un dialogue qui est là avec son père là-dessus. Et c'est très, très poétique. C'est extrêmement beau. Et voilà, il y a des livres jeunesse qu'adultes, on se retrouve à pleurer en le lisant. Si c'est ce livre-là, ou ça arrive avec le livre de Kitty Crosser ou autre. Mais voilà, là, c'était vraiment une émotion très forte. Découvrant ce livre.
Ok, bon, on va écouter Nick Cave and the Bad Seed.
Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There's no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. Trees will burn, blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. We know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive.
You Are, une chanson de Nick Cave que vous citez comme une œuvre d'art admirée, tout art confondu.
Oui, Nick Cave, c'est vraiment un de mes chanteurs préférés. Je trouve ce texte très, très, très beau, énigmatique, très, très beau.
C'est toujours un plaisir d'écouter Nick Cave and the Bad Seeds. On va continuer cette interview avec Mon Parc. Mon Parc, c'est encore un album que vous avez sorti en 2023 chez Actes Sud cette fois-ci. Et cette fois-ci, vous avez seulement été l'illustratrice et non l'autrice. Et vous avez donc posé vos images sur un texte de Camille Giordani. Alors ma première question, évidemment, c'est est-ce que ça change quelque chose de ne pas être aux commandes de tout l'album, mais seulement aux illustrations, notamment dans votre manière de les concevoir, bien sûr?
Oui, c'était une manière de travailler complètement différente. Donc, bah, c'est un dialogue, donc ça change tout. Et là, je pense que c'était vraiment... Déjà, c'était un coup de cœur très fort pour le texte. Mmh. Et sans qu'on parle beaucoup, donc l'écrivaine et moi, Camille, il avait une sorte de compréhension profonde qui existait à... Sans parler, ça veut dire en le lisant, je savais tout de suite dans ma tête en tout cas que c'est le parc de Bout de Chaumont, même si c'est pas dit dans le livre.
Il me semblait bien.
Et oui, on le connaît.
Je suis pas assez, je le connais pas tant que ça, mais il me semblait le reconnaître, oui.
Oui, et puis, même pour le personnage de grand-père, j'ai une grande surprise parce que Camille voulait que je dessine son vrai grand-père, mais l'éditeur a décidé de ne pas me montrer les photos pour me laisser la liberté de l'un peu trouver dans l'univers graphique à moi. Et qu'on a montré les dessins à Camille... En fait, il a commencé à pleurer, il a dit c'est mon grand-père. Donc il avait ce hasard de rencontre qui est rare, donc je trouve
Cet album, c'est l'histoire d'un grand-père et de sa petite-fille qui se promènent dans un parc, donc des buts Chaumont, justement, sans que ce soit cité. Et la petite-fille ne connaît pas le parc, c'est le grand-père qui a à cœur de lui faire découvrir, parce qu'il l'apprécie beaucoup. Donc je suppose que c'était autobiographique par rapport à Camille Giordani.
Oui.
D'accord.
Oui, donc c'est en balade, une balade dans le parc. Et pour le réaliser, donc c'était passé beaucoup de temps dans le parc, donc pas forcément au bout de Chaumont, mais aussi j'habite près de jardins de plantes à Toulouse, donc y aller régulièrement et essayer de devenir un peu chasseuse de petits moments qui se passent dans le parc.
Et oui, parce que après je comprends pourquoi le parc dans cet album est extrêmement visité, il y a du monde partout. Bon, c'est vrai qu'un grand parc parisien, il y a en général beaucoup de monde. Et du coup, il y a plein de petites scénettes que vous illustrez. Un couple qui se fait prendre en photo pour leur mariage, d'autres qui pique-niquent, plein de gens comme ça un peu partout. Et là, vous avez pu trouver votre inspiration dans un autre parc.
Oui. Donc il y a certaines choses qui sont vraiment typiques du bout de Chaumont, donc des éléments que je suis allée chercher, que je dis bah tiens, ça c'est vraiment, ça se passe là-bas et pas forcément dans tout le parc. Mm-hmm. Comme ce couple qui se prend en photo pour le mariage, c'est quelque chose de très touchant qui se passe régulièrement là-bas, oui. Peut-être pas en hiver, mais au printemps et en été, et des petites scènes du quotidien. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, dessiner des images où le regard peut vraiment se balader partout.
Cet album, on en a parlé, il parle d'un grand-père et de sa petite-fille, mais finalement, bien que vous les ayez dessinés, ils sont très effacés au profit du parc qui est plutôt le personnage principal de cette histoire.
Oui, le parc, c'est vraiment c'est un hommage pour le lieu, ça joue un rôle important dans le livre. Et puis, je pense que c'est aussi un livre qui est tout en jeu de regard, parce que c'est le grand-père qui regarde la petite-fille, qui, elle, regarde le parc. C'est l'enfant lecteur qui regarde le livre, le parc et tout ce qui se passe. Et c'est l'adulte qui regarde son livre, son enfant lire. Donc, je trouve ça joue aussi beaucoup là-dessus.
Alors, à Toulouse, je ne sais pas, mais ça doit être super drôle et mignon de rencontrer les jeunes lecteurs qui disent « Ah, mais je reconnais ce parc, je le connais bien et tout. » Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà...
Oui, j'ai eu l'occasion de faire des dédicaces à Paris. Et oui, c'était très touchant de voir les gens qui habitent à côté, qui ont reconnu certaines scènes. Ah, vraiment dire « Tiens, ça se passe vraiment souvent là-bas. » Et puis aussi, ça fait que le livre a aussi un public adulte, c'est-à-dire soit des personnes âgées qui ont offert le livre un pour l'autre, parce que ça montre aussi cet âge-là qu'on voit finalement pas très souvent dans les livres jeunesse. Ouais. Et oui, c'est très beau de voir l'accueil qu'il a eu autour de ce parc.
Super, et bien merci beaucoup. Donc Mon Parc, c'est chez Actes Sud Jeunesse, avec Camille Giordani au texte et Inbar Eller Al-Ghazi, vous-même au dessin. Je vous propose qu'on fasse la dernière pause musicale avec un morceau qui s'appelle Oiseau, je crois.
survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers, je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau, même un tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins. Le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon vent sur la pierre où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui 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 cui, cui 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 cui, cui 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 cui, cui 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 cui.
Écoutez Laurent Barden dans l'émission des Éclats de Lyre. Inbar Eller Al-Ghazi, j'aime beaucoup votre mot préféré, c'est réverbère.
Oui, oui, oui,
c'est pour.
Je trouve que c'est très, je pense, lié sur, sur le ton, sur le, je sais pas, c'est un mot, je pense, ce type de mot qui a un goût très. Très marqué, mais je ne sais pas. Il y a plusieurs comme ça que j'aime beaucoup.
Mais c'est plus pour le sens, pour ce que ça représente ou pour le son que ça peut avoir?
Ben, je pense que c'est les deux, mais ouais. c'est très sonore. C'est une impression à la fois de qu'est-ce qui se passe quand on le dit et l'image aussi. Ouais.
Alors c'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, on va parler un petit peu d'une autre pratique que les auteurs et les illustrateurs pour la jeunesse ont beaucoup. Ils ne sont pas seulement en train de faire des livres, ils font aussi beaucoup d'ateliers, et notamment avec le jeune public. Et je crois que vous, notamment, vous vous en développez pas mal.
Oui, ça c'est une partie importante de le travail, parce que c'est souvent, vraiment fabriquer le livre, on est souvent seul dans... dans nos ateliers. Donc c'est le moment où on voit les enfants et on voit comment ils accueillent le livre et juste les rencontrer. Je pense que c'est un plaisir. Et en effet, il y a plusieurs ateliers que je développe, notamment pour le 5-8 ans. C'est à peu près les âges.
5-8 ans, ouais. Alors, pour les éclats de lire, il va très certainement avoir un atelier que vous allez animer qui s'appelle « Dessin de paysages minuscules ». Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cet atelier ?
Oui, donc c'est un atelier de fabrication de minuscules livres. Et ça a commencé un peu dans l'idée de ce monde minuscule, qui est présent dans Gilet Flop, mais j'ai vu que quand les enfants dessinent sur un petit format, parfois c'est très surprenant. Mmh. Il y a quelque chose, quand on y pense, le A4, le feuille normale sur laquelle on écrit ou on dessine, il est finalement pensé pour les adultes et c'est très grand, c'est plus grand que la tête d'un enfant souvent. Et leur donner en petit format, ça, c'est très surprenant ce qui sort souvent.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes, si vous voulez, avant de se quitter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou peut-être à nous parler de projets qu'on n'a pas évoqué encore ?
Je peux dire qu'il y aura un deuxième livre chez les Fourmis Rouges qui sort au printemps.
D'accord, également.
Donc, je ne peux pas encore dire plus, mais voilà, qui est complètement différent et donc... qui ressemble pas du tout à Gilet Flop.
D'accord, ouais. D'accord. Alors, les auditeurs peuvent vous retrouver sur votre page Instagram et il y a un site internet peut-être où vous mettez des actualités ou des dessins ?
Non, principalement sur Instagram. Ouais.
Ouais, où on voit pas mal de dessins très jolis, inédits. Donc, Inbar et l'air Al-Ghazi. Et ce qui est formidable, enfin peut-être, hein, s'ils sortent au printemps, c'est qu'ils seront peut-être disponibles pour les éclats de lire.
Oui.
Le 24 mai.
Oui.
Peut-être. Bien, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
À vous aussi et à très bientôt. Donc, au mois de mai, les 24 et 25 mai, je crois, au Vigan, au Château d'Assas, pour la 11e édition des Éclats de Lire. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à Radio Escapade et merci à Fabien pour la technique.
Ici, les eaux fleurissent.
Les éclats de lire, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 mai 2024 au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
C'est toujours un grain de sel.